La revue de presse internationale.
7h24 sur France Culture. Bonjour Thomas Cluzet.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, rencontre du troisième type.
Oui, voilà des siècles que la question de la vie sur Mars fascine. Au fil de multiples missions, les chercheurs et leurs robots se sont ainsi mis en quête de possibles traces que la vie aurait laissées, notamment depuis que dans les années 70, les humains ont réussi à y poser leurs premiers engins, les sondes américaines Viking. Or voilà que 40 ans plus tard, les Européens, vexés qu'ils étaient de n'être pas parvenus à poser à leur tour un engin sur la planète rouge, s'apprêtent à réaliser enfin leur rêve. Aujourd'hui, à 16h48 précise, un petit module répondant au nom de Schiaparelli, en l'honneur de l'astronome italien qui au 19e siècle avait cru voir des canaux artificiels sur Mars, ce petit robot de 600 kg devrait donc toucher le sol de la planète rouge. Une première pour l'agence spatiale européenne, ESA, et qui sera immortalisé en images durant toute la descente par un autre engin américain, lui, qui crapahute sur Mars depuis 12 ans déjà. Alors évidemment, la manœuvre s'annonce périlleuse. Le premier moment crucial pour le succès de cette mission, précise le Temps de Lausanne, surviendra lorsque Schiaparelli devra se séparer de son satellite. Il faudra alors trouver l'angle parfait pour la chute du module, afin d'éviter qu'il ne chauffe trop et ne brûle dans l'atmosphère. Une fois largué, la course de l'engin ne pourra plus être modifiée. Elle durera 6 minutes, très précisément. Et comme la Terre, elle, se situe à plus de 10 minutes de communication, il ne sera pas possible de commander cette opération en direct. Un programme d'ordre précis a donc été téléchargé sur la sonde. L'arrivée se déroulera en 3 étapes. Tout d'abord, la chute libre sous protection d'un bouclier thermique. Ensuite, le déploiement d'un parachute. Et enfin, l'allumage de 9 rétrofusées qui permettront à l'engin de freiner d'une vitesse de 250 à 4 km à l'heure. Et puis à 2 mètres du sol, là, les réacteurs s'éteindront à cet instant. Et si tout se passe comme prévu, Schiaparelli s'écrasera alors de manière contrôlée sur Mars. Une fois posé, l'engin équipé uniquement de batteries et dépourvu de panneaux solaires n'aura que quelques jours seulement pour faire diverses mesures aidant à caractériser la surface de Mars, vitesse du vent, taux d'humidité, pression et température. Alors quoique très utile, ces relevés ne seront sans doute pas de nature à bouleverser la planétologie martienne, mais peu importe, car en réalité, toute cette opération vise uniquement à préparer le second volet de la mission, l'arrivée d'un autre robot, gros comme une voiture, baptisé Pasteur, et qui aura lui pour tâche de forer sous la surface du sol afin de détecter des traces de vie actuelle ou passée. Un exploit d'abord prévu en 2018, mais qui a finalement été repoussé à 2020 en raison des délais de réalisation technique non tenus et surtout du fait que l'Agence spatiale européenne a dû changer de partenaire en cours de route. L'ESA avait d'abord approché la NASA, laquelle s'est ensuite désengagée du projet, invoquant des contraintes budgétaires. Et c'est ainsi que l'Agence spatiale européenne s'est ensuite tournée vers sa pendante russe, Roscosmos. En d'autres termes, ExoMars, la mission qui peut tout changer, ainsi que le titre ce matin le journal, est le fruit d'une collaboration étroite entre l'Union européenne et la Russie.
Et bien entendu Thomas, dans le contexte actuel, cette collaboration a de quoi faire sourire.
Oui, à commencer par la date, même si rappelons-le, la première partie de la mission russo-européenne a décollé le 14 mars dernier. Il se trouve que ce mercredi 19 octobre, le jour donc où Russes et Européens vont se poser main dans la main sur Mars, est aussi le jour initialement prévu pour la visite en France de Vladimir Poutine à l'occasion de l'inauguration de la cathédrale orthodoxe du Quai Branly. Une visite prévue elle aussi de longue date et finalement annulée à l'initiative du Kremlin sur fond de tensions autour du sort d'Alep et pour cause. Si récemment encore, précise Il Soleil, il semblait possible de concilier la position russe avec la recherche d'une solution diplomatique, aujourd'hui ce n'est manifestement plus le cas. Et puis, toujours au chapitre de cet alignement des planètes, finalement pas toujours aussi favorable qu'il n'y paraît, ce 19 octobre est également le jour où Vladimir Poutine est attendu cette fois-ci à Berlin. Outre le chef du Kremlin, la chancelière Angela Merkel recevra dans la soirée le président ukrainien Petro Poroshenko, mais aussi François Hollande, afin de tenter de trouver une issue politique au conflit ukrainien. Un mini-sommet qui s'inscrit là encore dans un contexte d'enlisement. Il y a quelques jours à peine d'ailleurs, Angela Merkel semblait elle-même douter du bien fondé de cette rencontre, sauf que du point de vue des observateurs allemands, chacun des 4 dirigeants présents ce soir à Berlin avait intérêt en réalité à ce que cette réunion se tienne. Petro Poroshenko, tout d'abord, veut ramener le conflit dans son pays éclipsé par la guerre en Syrie sur le devant de la scène. Angela Merkel et François Hollande ensuite espèrent ne pas arriver les mains vides au prochain sommet de l'UE prévu vendredi à Bruxelles. Enfin, Vladimir Poutine surtout espère lui à tout prix éviter l'adoption de nouvelles sanctions. Alors, pas plus tard qu'avant-hier, les ministres européens des Affaires étrangères ont décidé dans un premier temps de ne pas punir davantage Moscou. Pourquoi ? Parce que dans le monde occidental, écrit la Frankfurter Allgemeine Zeitung, on craint de se voir happé dans une spirale infernale. Mais plus encore, parce que personne n'a visiblement aujourd'hui de plan de route cohérent à opposer à une politique russe qui suit la logique de la destruction. Évidemment, de son côté, le Kremlin, lui, exploite cette impuissance, d'où le mini-sommet de ce soir qui, par bien des aspects, relève là encore de la science-fiction.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, une chronique à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr.